Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Bonsoir à tous. Alors on a exprimé à travers ce dernier chant, bien que Christ est la réponse, et l'invitation qui nous est adressée à chacun, c'est tout simplement de lui faire foi, de lui faire confiance. Et à ce titre, j'aimerais justement que nous ouvrions un passage de notre Bible dans le livre des Actes des Apôtres, un passage qui est très bref, très court, et nous allons lire donc au chapitre 9, devant un besoin de toujours, le besoin des hommes d'hier et d'aujourd'hui, c'est cette aspiration profonde à être délivré, à être guéri de nos maladies. Alors, on va lire cela ensemble. On va prendre ce texte de référence. Livre des Actes, chapitre 9 et verset 32. Alors voilà ce que nous avons devant les yeux et que nous partageons ensemble. Comme Pierre visitait tous les chrétiens, tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydde. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, « Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. » Et aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lydde et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Voilà, c'est une belle histoire comme nous en avons tant d'autres dans la Bible. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas un grand lagus dans ce texte, mais je voudrais prolonger justement ce fait miraculeux qui s'est opéré dans cette ville de Lydde et ainsi reposer les fondements, les principes essentiels, les valeurs fondamentales pour les autres de ce qu'est et ce que peut représenter dans la Bible, dans l'Évangile en particulier, la guérison de Dieu, la guérison physique ou la guérison morale, la guérison divine. Voilà, alors donc, je pense que c'est important parce que, vous savez, l'apôtre Paul ne se trompe pas quand il dit ceci, quand il écrit ceci dans la lettre aux Romains, il dit « Tout ce que la foi vient de ce que l'on entend, ou la foi naît de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. » Alors, profitons de l'occasion qui nous est donnée ce soir dans cette réunion, de rappeler les principes essentiels de la foi qui nous conduisent à la délivrance et à la guérison. Vous le savez que avec le départ de Jésus, c'est-à-dire ce que la Bible nous relate dans les évangiles, crucifixion, résurrection et son ascension, c'est bien un départ. La croix, c'est la mort. La résurrection, c'est véritablement le triomphe de la vie sur la mort, et puis l'ascension, Jésus, montant au ciel. Ce que nous savons et ce que nous apprend l'Écriture sainte, c'est que le temps des miracles n'est pas révolu. Ouais. Jésus a fait de son vivant énormément de miracles, de toutes sortes, de toute nature. Mais nous voulons bien croire, parce que la Bible nous le dit, que il y a des promesses que Jésus a données à ses disciples, promesse pour les premiers temps de l'Église, relayée par les apôtres d'abord et ensuite par les disciples, on s'aperçoit que finalement la résurrection de Jésus a été véritablement la preuve incontestable que Jésus n'est pas resté dans le tombeau, mais qu'il est vivant et qu'il est vivant à toujours. Alors nous n'avons pas un Dieu qui aurait disparu de la scène, mais nous avons un Dieu qui est toujours présent et qui est toujours opérant et agissant face aux cris, aux douleurs et aux sollicitations des hommes. Les plus belles preuves nous en sont données, nous en sont fournies précisément par le livre que nous avons ouvert ce soir, parce que c'est un livre d'histoire. Et je pense que le livre des Actes, des actions des apôtres, pourrait-on dire d'une autre façon, pour nous montrer, pour nous dire que les promesses que Jésus a laissées, eh bien, elles sont encore et elles sont toujours réalisables. On pourrait dire que le livre des Actes des Apôtres, c'est le livre de la continuité évangélique. D'ailleurs, j'en tiens pour preuve le premier chapitre et le premier verset de ce livre des Actes, où nous lisons ces paroles, qui sont d'autant plus encourageantes, parce que ça s'adresse, tout simplement, c'est Luc qui est l'auteur, Luc c'est l'auteur aussi de l'Évangile, qui écrira à un de ses amis qui s'appelle Théophile, et il dira ceci: « J'ai parlé dans mon premier livre, donc l'Évangile de Luc, de tout ce que Jésus a commencé, et je souligne cette expression que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, c'est ce que nous avons dit il y a un instant, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. » C'est-à-dire que nous pouvons considérer, et nous devons être particulièrement convaincus que Jésus a commencé, mais que la continuité, elle nous revient. Elle nous revient dans la mesure où nous croyons que le mandat, que les ordres qu'il nous a donnés, ou les commandements, si vous voulez, eh bien, c'est précisément de prêcher l'Évangile. Et avec cet évangile prêché dans tous les temps, dans toutes les sociétés, dans tous les milieux, en l'entendant, des hommes et des femmes puissent recevoir cette foi dans ce Dieu vivant, dans ce Dieu ressuscité, et qui est capable, pleinement capable, non seulement de les bénir de toute façon, mais de les bénir particulièrement en les guérissant de leur maladie. Alors, c'est le livre de la continuité, qui repose naturellement, eh bien, sur nulle autre chose que les promesses que Jésus a données. Et quelles promesses Jésus a-t-il données à ses disciples? C'est vrai pour les disciples d'hier, d'il y a 2000 ans, et puis c'est vrai aussi pour les disciples que nous sommes, le croyant d'aujourd'hui. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Et vous avez remarqué une petite phrase où Jésus va ponctuer par deux expressions particulièrement soulignées. Il dira ceci: en vérité, pour bien marquer que c'est la vérité. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Donc il s'agit bien d'une continuité. Il a commencé, il a donné mandat à ses disciples de poursuivre son œuvre, et avec, finalement, confirmation que cette parole, lorsqu'elle sera annoncée, serait soutenue, serait authentifiée, serait vérifiable, eh bien tout simplement pour celui qui croirait qu'il ferait autant de miracles que lui-même en a fait. Alors dans le temps, dans l'espace naturellement, et pour un avenir prochain, pour naturellement les disciples, comme pour un avenir lointain, c'est-à-dire l'époque dans laquelle nous sommes. Je crois que ce que Jésus nous a dit n'est que vérité. Et je pense que lorsque nous considérons toute la misère, le poids, l'océan de misère humaine, combien les gens auraient besoin de revenir à la lecture de la Bible et de se saisir des paroles de Jésus. Parce que c'est une vérité profonde. Je voudrais faire une remarque avant d'aller un petit peu plus loin, c'est que la guérison divine n'est pas ou n'était pas l'exclusivité des apôtres seulement, ou des témoins oculaires, ceux qui ont vu Jésus guérir, ceux qui l'ont suivi pendant 3 années. Mais affirmer aujourd'hui dans un monde qui ne croit plus que c'est le privilège de tous les hommes, à travers tous les temps, de tous ceux, et vous l'avez remarqué, Jésus dit « celui qui croit en moi ». C'est-à-dire partout, à travers toute l'histoire du monde, partout où il y aura des hommes et des femmes qui croiront en Jésus, qui croiront à ses paroles, à ses promesses, eh bien, ils feront exactement la même chose. Et il est parlé de grands miracles. Il est parlé de choses prodigieuses. Ça, c'est le premier point. Jésus nous dit que ce seront des choses grandes, surnaturelles, miraculeuses, avec le caractère de la puissance dans ce temps, dans l'espace et en quantité. Il en fera de plus grandes et peut-être même de plus nombreuses. Depuis que le christianisme a fait son apparition, que de témoignages merveilleux. Nous pouvons recueillir de la bouche de tous ceux qui ont été l'objet de cette guérison divine. Et bien des amis qui sont dans les églises évangéliques, eh bien, sont venus très souvent à la faveur d'une action puissante dans leur vie, où Dieu manifestait sa compassion pour leurs souffrances et les a délivrés de leurs souffrances ou de leurs maux. Ça, c'est une chose. Alors, est-ce que nous pouvons douter de la continuité de la puissance miraculeuse du Christ quand il nous affirme ceci, « Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde ». Nous n'avons pas à en douter, nous n'avons pas à en mettre en doute puisque c'est lui qui le dit. Et c'est vérifiable et c'est authentifié par les expériences que les hommes peuvent faire aujourd'hui dans notre 21e siècle. Alors c'est vrai que finit la présence physique de Jésus. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il nous a fait cette promesse qui est souvent nourrie d'affirmations dans les évangiles que si ce n'est plus la présence physique de Jésus au milieu des hommes, c'est sa présence par le Saint-Esprit. Et c'est peut-être ce qui déroute parce que quand Jésus est venu physiquement, certains se sont exaltés pour lui et puis d'autres l'ont maudit ou l'ont dénigré ou l'ont rejeté, voire ce que nous connaissons de ce que l'histoire nous rapporte, l'ont crucifié. Mais maintenant, c'est une présence invisible, mais présence quand même. La présence du Saint-Esprit au milieu des hommes dans notre temps. Alors, c'est une continuité qui a été assurée par les apôtres parce qu'ils avaient bien compris le mandat que Jésus leur avait donné. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ceci, cela, et etc. Et entre autres, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc il y a un geste d'obéissance, il y a une démarche d'obéissance, à tel point que le livre des Actes des Apôtres nous rapporte tout de suite dans ses premières pages, il nous est dit que il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Ça c'est le chapitre 2. Allons un peu plus loin, au chapitre 5, il nous est dit ceci, « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. » Lisez la Bible, lisez le livre des Actes et vous verrez qu'à chaque page que nous tournons, ici ou là, à travers les déplacements des apôtres, des disciples, rencontrant un tel, un aveugle, rencontrant un boiteux ou ceci et cela, la Bible elle est pleine de cette signature de Dieu qui est marquée particulièrement par cette compassion touchée de Dieu pour nos souffrances et nos misères et qui fait que Dieu, alors à ce moment-là, si nous lui faisons confiance, lui, il étend la main, sa main puissante pour nous libérer et nous délivrer. Continuité relayée par une multitude d'hommes qui auraient dans la suite des temps l'audace de croire à la survivance des promesses divines. Et ce n'est pas parce qu'il s'est écoulé plus de 20 siècles, 21 siècles maintenant, que Dieu aurait changé d'avis, que Dieu aurait apporté un démenti à ses promesses et à ses paroles, et de dire, tout ça, ça n'existe pas. Partout où l'évangile, ici ou ailleurs, l'évangile est prêché, dans cette intégralité, dans ce respect de ce qui nous est dit, le Seigneur est présent. Moi, je crois que le Seigneur est présent au milieu de nous ce soir. Et il connaît, et il sait ce qu'il peut faire, il sait ce qu'il veut faire, il nous connaît parfaitement, et il connaît nos douleurs et nos souffrances, et il s'approche de nous pour nous dire, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Physiquement, moralement, d'une manière ou d'une autre. Je l'ai cité tout à l'heure, je le dis encore, dans l'évangile qu'on appelle l'Ascension, l'évangile de l'Ascension, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est une même promesse qui touche l'effusion du Saint-Esprit, le salut et bien d'autres choses que Dieu est venu donner aux hommes. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Je le rappelle, il ne s'agit pas de la présence physique de Jésus, mais de son action par cette personne divine qu'est le Saint-Esprit et qui est agissante. Parce qu'il nous est dit, vous recevrez le Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. La guérison, c'est au même titre, c'est pareil. Les hommes ont besoin de recevoir une vie nouvelle d'en haut, mais ils ont besoin d'être restaurés dans cette vie d'ici-bas, lorsqu'ils sont touchés par la souffrance et la maladie. Ceux qui auront cru, j'insiste, et qui croiront encore dans toutes les générations, en quelque sorte pourrait être dit de cette manière, verront la réalité des miracles, dont guérison miraculeuse, délivrance, à travers des solutions ou des réponses inouïes, nous pouvons dire. Parce que Dieu n'a pas fini de nous étonner. Il n'a pas fini de nous émerveiller et de nous conduire dans telle ou telle direction selon, naturellement, eh bien, sa volonté, mais particulièrement dans ce que nous éprouvons, ce que les hommes ont éprouvé depuis la nuit des temps, c'est-à-dire, eh bien, le soulagement et plus que ça, la délivrance d'être affranchis de leurs douleurs et de souffrances. Et ça, c'est vrai pour aujourd'hui. Témoin d'hier, c'est le texte que nous avons, mais c'est aussi un témoignage pour notre temps. On pourrait peut-être penser que l'Évangile fait partie d'un lointain passé, quand nous arrivons à avoir une Bible dans les mains et que nous lisons en disant « Mais oh là là, c'est tellement vieux !» Vous vous rendez compte, Jésus vivait du temps des empereurs romains, mais pour eux, ça nous semble tellement enfoui dans l'histoire. Et ça nous pourrait peut-être nous confondre, dire « Mais c'est tellement vieux, à quoi cela pourrait-il servir ?» Mais nous voyons que l'Évangile a été composé aussi pour un lointain avenir, c'est-à-dire traverser les temps, venir jusqu'à nous ce soir qui sommes réunis, c'est-à-dire jusqu'à la fin du monde. Mais c'est une réalité, et nous apercevons que tout cela, eh bien, ça fait partie du caractère de Dieu, et ça fait partie du plan de Dieu, peut-être parfois pas toujours facile à saisir, mais son message de l'Évangile est avant tout une interpellation pour le présent, pour la vie quotidienne, c'est-à-dire pour répondre à nos soucis, à nos préoccupations ou nos tracas de ce monde d'aujourd'hui, problème d'existence de notre temps, et il faut oser croire à son actualité. Je dis toutes ces choses pour remettre les choses en place, parce que les avis et les approches de l'Évangile sont tellement diverses, en fonction des enseignements que nous avons reçus, ou des dénigrements, ou des contestations, ou toutes sortes de polémiques qui ont pu être en effet lancées sur l'Évangile. Mais je pense que Dieu est à l'écoute de ceux qui osent croire à l'actualité de sa parole et de ses promesses. La Bible ajoute que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que je rappelle, ce sont des versets bibliques pour fonder tout à nouveau notre foi dans l'actualité. Dans l'actualité du présent de Dieu qui est aussi notre présent. Souvent, on a considéré que toutes les histoires de Dieu, c'était du passéisme, une vieille histoire, comme souvent les religions empoussiérées le ressortent de temps en temps. Mais moi, je dis que, d'abord, l'Évangile n'est pas une religion, c'est une nouvelle actuelle, c'est une actualité pour chacun d'entre nous. Et quand il nous est dit que Jésus-Christ a traversé finalement, eh bien, les temps, hier, aujourd'hui, éternellement, eh bien tout cela fait écho à ce qu'il nous a dit. Dans ses dernières paroles testamentaires, nous pourrions peut-être les appeler ainsi, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28, quand il dit « Mais je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Moi, je suis tout à fait conscient, je suis tout à fait persuadé, je ne suis pas tout seul ce soir à partager cette conviction que le Seigneur est là. Que le Seigneur est là, il est avec nous, quoi qu'il en soit, dans la mesure où je le crois, eh bien il est là. Voilà, il est là pour moi. J'espère que je ne serai pas le seul. » Je voudrais le partager tellement avec vous, naturellement. Hein. Alors, est-ce que Dieu aurait changé? Ne nous laissons pas emporter par le doute ou par toutes sortes de suggestions. L'apôtre Jacques nous dit ceci dans le chapitre 1er de son épître. Il dit ceci, « Ne vous y trompez pas. Toute grâce excellente, et je dis que la guérison divine, c'est une grâce excellente de Dieu. Et vous en connaissez naturellement les raisons. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni ombre de changement ni de variation. Donc Dieu ne change pas. Ce qu'il faisait il y a 2000 ans à travers les mains de Jésus, à travers les mains et la bouche des apôtres, ce qu'il a pu faire à travers tous les temps et ce qu'il peut faire encore ce soir au milieu de nous, c'est parce que nous croyons dans un Dieu qui n'a pas de variation ni de changement. Nous sommes changeants et versatiles, mais Dieu est toujours le même. Et ça, c'est important. Et ce soir, je peux venir avec mes souffrances, avec mes douleurs, avec mes préoccupations, et de lui dire, mais Seigneur, je crois que tu es là. Et je crois que tu es toujours le même. La fille de la Cananéenne que tu as guérie hier. Les yeux de Bartimée que tu as ouverts hier. Le paralytique que tu as fait marcher. Et puis, tant d'autres merveilles. Mais Seigneur, tu es encore capable de le faire aujourd'hui. Et ça, il faut que nous ayons le cœur simple. Il faut que nous soyons humbles pour le comprendre. Parce que Dieu ne change pas. Un Dieu qui ne change pas, et la Bible nous dit qu'il est immuable, qu'il est fidèle et qu'il est constant. Et c'est pour ça que nous pouvons avoir cette assurance et nous approcher de lui. Vous savez, quand on est véritablement malade et qu'on entend une telle parole, eh bien, c'est un baume pour notre cœur. C'est là où l'homme reprend espoir. Oh, bien sûr, si on a un petit mal de dents, si on a quelques petites migraines, des choses comme ça, bon, ça passe, hein, ça vient, ça, tout le monde connaît cela. Mais vous savez, quand vous venez d'apprendre que vous avez un cancer, qu'on vous dit « mais on ne peut plus rien pour vous », c'est désespéré votre cas, alors à ce moment-là, vous savez ce qu'il nous reste? Eh bien, il nous reste plus que le Seigneur. Et lui ne change pas. Et il s'approche de nous pour dire « mais écoute, voilà l'épreuve. Elle est là, elle est à ta porte. Que vas-tu choisir ?» Ou peut-être plus précisément, qui vas-tu choisir? Toute grâce excellente et don parfait. Alors comment ne pas y voir la puissance miraculeuse qui guérit et qui sauve encore? L'homme d'hier, comme celui d'aujourd'hui, a autant besoin de guérison et de salut. Mais je voudrais vous dire une vérité, c'est qu'il y a une grande différence. L'homme d'hier, l'homme d'aujourd'hui. Nous avons besoin de la guérison, nous avons besoin de salut, nous avons besoin de ces dons parfaits de Dieu. C'est que l'homme des temps actuels s'est donné les moyens de se guérir lui-même ou de se sauver lui-même sans recourir à Dieu. C'est difficile à comprendre et à saisir parce qu'on se dit « Merci Seigneur d'avoir les compétences et les actions de la médecine, les découvertes, et nous ne voulons pas renier cela. » Nous ne voulons pas être des fanatiques. Mais c'est vrai qu'on s'est aperçu que l'homme, à travers ses découvertes, dans lesquelles nous pouvons bénir justement Dieu, de permettre tant de choses qui prolongent la vie, qui peuvent apaiser les souffrances, on s'aperçoit que l'homme a fait un transfert radical. C'est-à-dire que l'homme devient un Dieu, dont nous oublions trop souvent qu'il n'a pas tout pouvoir, et nous avons oublié celui qui a tout pouvoir pour déléguer notre confiance uniquement sur ce qui est très limité. Et ça, c'est bien le problème de notre temps. Plus ces moyens humains se sont développés, on s'aperçoit que la guérison maintenant est associée à la science. Alors merci Seigneur pour cela. Mais la science médicale, les médicaments, et plus l'homme s'est éloigné de Dieu, plus il a perdu, hélas, la notion de s'attendre à celui qui est au ciel en toute chose. Nous voyons vraiment la différence dans l'évangélisation missionnaire. Nous sommes dans des pays de culture chrétienne où on s'aperçoit que, eh bien, il y a beaucoup de choses qui ont été faites et qui sont faites. Nous sommes dans un pays où nous n'avons pas à nous plaindre, au niveau social, quand même. Parce que si nous regardons ailleurs, nous allons voir que on est quand même en haut de l'échelle, hein, par rapport à des situations dans des peuples ou dans des nations où vraiment il n'y a rien du tout. Et c'est vrai que quand on entend les commentaires de nos missionnaires qui reviennent d'Afrique ou qui reviennent d'Asie ou ceci et cela, où là il n'y a absolument pas grand-chose. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de médecins ou très peu de médecins ou d'infirmiers ou d'infirmerie. Il y a les hôpitaux, il faut payer. Alors celui qui n'a pas d'argent, eh bien il ne se fait pas soigner. Et là, à ce moment-là, quand ils vont prêcher l'Évangile, quand ils prêchent Jésus-Christ devant des populations qui sont déshéritées, des populations qui sont démunies en tout, et vous leur prêchez et vous leur apportez le nom de Jésus, là, je peux vous dire que vous retombez et vous revenez comme dans les temps apostoliques ou les temps évangéliques, où il y a des miracles, où il y a la puissance de Dieu qui se manifeste, parce que les gens n'ont pas autre chose. Mais nous avons peut-être trop de choses. Ça ne veut pas dire qu'il faille renier les avancées humaines. Mais c'est pas pour ça qu'il faut renier Dieu, pour autant. Parce que c'est ça le problème. Et on se dit aujourd'hui, mais il n'y a plus de miracles dans notre pays. Il n'y a plus de cette action de Dieu, pourquoi? Parce que je voudrais vous dire, sans tirer trop sur les mots, mais que Dieu a besoin. Que Dieu a besoin d'une chose chez l'homme, c'est de sa confiance et de sa foi pour agir. Autrement, eh bien, ça se réduit à une paralysie. Il ne se passe plus rien. Le ciel reste d'airain, il reste silencieux. Et nous voyons que plus l'homme a perdu cette notion de Dieu, eh bien, l'homme finalement, eh bien, ne sait plus ce que veut dire le mot miracle. C'est plus ce que ça veut dire le mot surnaturel. Alors, la confiance en l'homme s'est développée, et parallèlement, la foi en Dieu a disparu. Parce que, comme Jésus le dira, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Soit notre foi, elle est portée sur Dieu et Dieu seul, et je m'attends à lui, je compte sur lui. Ou alors, à ce moment-là, eh bien, je vais disperser ma confiance à tout vent de possibilités, de doctrines et toutes sortes de choses. Dieu ne fait plus, précisément, parce que l'homme ne croit plus. Et c'est le drame. Et on est bien d'accord pour le constater, malheureusement, dans nos pays. Et pourtant, je dois dire et je dois ajouter que ce n'est pas pour cela qu'il n'y a pas de la misère, qu'il n'y a pas de la souffrance, qu'il n'y a pas des cris, qu'il n'y a pas des hurlements de douleur autour de nous. Nos cliniques et nos hôpitaux se sont multipliés dans le contexte de notre nation. Et ces hôpitaux et ces cliniques sont remplis de gens malades. Alors ça nous interpelle quand même. Parce que je le dis, Dieu ne fait plus parce que l'homme ne croit plus. Ou alors sa foi est descendue d'un niveau, au lieu de diriger sa foi vers le ciel, l'homme l'a dirigée vers la terre. Et il faut bien croire que l'homme, malgré ses capacités, malgré ce que Dieu lui a donné, reste limité. Il ne reste qu'un homme. À tel point que le prophète Jérémie écrira au chapitre 17, s'il m'en souvient, que malheur à l'homme qui se confie dans l'homme, mais heureux l'homme qui celui qui se confie en l'Éternel. Parce que là, il n'y a plus de limite avec Dieu. Et combien nous avons pu constater qu'il n'y a pas de plus grande joie de voir Dieu exaucer nos prières. Alors, conséquence, absence de miracle. Et la question que nous pouvons nous poser, mais lequel des deux a changé? Est-ce que c'est l'homme qui a changé? Ou est-ce que c'est Dieu qui a changé? On a dit que Dieu était mort. Moi, j'ai pas reçu de faire part. Je sais qu'il a laissé un testament, deux testaments. Le deuxième est vraiment pour moi. C'est écrit, hein? Il est pour moi. Si vous voulez, je peux le partager avec vous, hein? Mais qui a changé? C'est Dieu ou c'est l'homme? Ah, l'homme a changé, c'est sûr. Laissons de côté les théories de l'évolution, parce que là, on va se perdre dans quelque chose qui va être encore beaucoup plus compliqué. Dieu ne fait plus, parce que, je le répète, l'homme ne croit plus. Alors, il est intéressant de considérer, dans ces quelques instants que nous allons terminer ce message, de considérer brièvement dans quel temps nous sommes. Est-ce que nous sommes encore dans des temps primitifs? Est-ce que nous sommes encore dans une période où la révélation serait incomplète, où véritablement, eh bien, Jésus aurait oublié quelque chose, bien qu'il nous ait dit à la croix du calvaire que tout était accompli? Alors, dans quel temps, dans quelle page de l'histoire se trouve l'humanité d'aujourd'hui? Parce que je vous parle des gens qui vivaient du temps des Romains, du temps de Jésus et tout ça, ça ne nous concerne plus, hein. Mais que je vous parle des hommes qui vivent au 21e siècle, dans la société, dans le monde dans lequel nous sommes, ça nous concerne. Je voudrais vous rappeler quelques phases de cette humanité qui a traversé le temps. Il y a eu cette humanité très restreinte, celle de l'Éden. Alors là, à ce moment-là, dans un premier temps, la guérison, ça n'existait pas, puisque de toute façon, il n'y avait pas de maladie. Et puis, il y a eu l'ancien monde du temps de Noé, dont il nous est parlé dans la Bible. Après, il y a eu le temps des patriarches. Il y a eu l'époque mosaïque, c'est-à-dire la venue de la loi de Dieu. Puis les temps du christianisme. Viendra le temps du millénium. Et puis ensuite, eh bien, tout se refermera sur l'éternité de Dieu. Alors ce sont les âges, hein, je passe ça vraiment en diagonale. Mais je voudrais affirmer une chose à travers tous ces âges qui se sont succédés, où Dieu a toujours été présent, il a toujours été souverain dans le ciel et sur la terre, c'est que nous sommes réellement, et je voudrais le dire et le ponctuer, nous sommes vraiment dans les temps du christianisme, nous ne sommes pas dans le millénium. Nous ne sommes pas rentrés dans l'éternité, nous ne sommes pas au temps de Moïse, nous ne sommes plus dans l'Éden, ça c'est clair quand on considère les choses. Nous sommes dans les temps du christianisme et permettez-moi de vous dire comment a commencé l'ère chrétienne. Comment elle a commencé? Elle a commencé par des miracles, elle a commencé par des signes, elle a commencé par des guérisons, elle a commencé par une dimension surnaturelle, elle a commencé par des prodiges. Et le christianisme fidèle à l'évangile est l'ère du miracle par excellence. Or, autant que je puisse en juger, je l'ai dit, nous ne sommes pas encore rendus dans le millénium. Donc nous sommes vraiment dans le temps du christianisme, et je ne vois pas pourquoi il y aurait un changement, un renversement finalement d'état entre le début du christianisme et la fin du christianisme. C'est toujours le christianisme, et le christianisme est porteur de surnaturel, de miracles, et cet évangile répondra toujours à la foi des hommes. C'est pour vous dire qu'il y avait peut-être une foi très forte au début, mais aujourd'hui, qu'en reste-t-il? À tel point que Jésus dira que lorsque je reviendrai, trouverai-je encore la foi sur la terre? La question, elle est là. La question est celle-ci. Alors, en raison de cette déduction que je viens de faire rapide, qui nous autorise à penser que le temps des miracles est fini? Qui nous autorise? C'est pas la Bible qui nous le dit. La Bible nous dit le contraire, que ça continue. Eh bien, c'est tout ce que nous avons autour de nous. C'est le monde. Ce sont ces philosophies antichrétiennes. Ce sont toutes ces bombes idéologiques, si je peux me permettre de dire les choses de cette manière, qui sapent la foi, qui découragent les hommes, qui nous ont dit et qui nous répètent à qui veulent l'entendre que Dieu est mort, que Dieu n'a jamais existé, que ça c'est une invention humaine. C'est ça la contrepartie qui fait que, eh bien, les fondements sont sapés, les fondements disparaissent. Et ça se manifeste par deux choses, deux réactions humaines, c'est l'endurcissement des cœurs et c'est l'incrédulité. Or, Dieu n'a jamais répondu à l'endurcissement des cœurs et à l'incrédulité. Et pourtant, c'est la même puissance, donc, en quelque sorte, c'est la même période. Je dis aujourd'hui, et je précise, et j'atteste ce soir, que rien n'a changé depuis que Jésus est venu, que là, les guérisons d'hier, c'est encore les guérisons d'aujourd'hui. Maintenant, il faut le croire. Pour celui qui veut véritablement un tant soit peu se poser la question et se dire, mais Seigneur, ce que tu as fait hier, tu peux le faire aujourd'hui de même. Ce que tu as fait pour celui-ci ou celle-là, mais tu peux le faire pour moi. Mais faut-il avoir suffisamment d'humilité et de modestie pour dire, mais Seigneur, tu es là pour véritablement, et je veux croire, que tu es là pour me faire le même bien que tu faisais et que tu as toujours fait. Alors y aurait-il une si grande différence entre les débuts glorieux et triomphants du christianisme et ce que nous vivons aujourd'hui, caractérisé par l'absence quasi totale, finalement, du miraculeux? Pourquoi? Et pourquoi, chez nous, il n'y a plus rien du tout, et que vous allez dans certaines contrées du monde, déshéritées, et que là, il suffit de prêcher l'évangile pour qu'il y ait des miracles, pour que la terre soit frappée du miraculeux et du surnaturel de Dieu? Donc, c'est bien une question de terrain. C'est bien une question de disposition de cœur, c'est bien une disposition ou une propension à croire ou un refus, finalement, de croire. À tel point que nos contemporains nous disent que Dieu est mort, que le christianisme est mort, il est sans vie et sans puissance. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai ce que les hommes disent. C'est un mensonge habile de l'ennemi pour nous amener à renforcer notre incrédulité et nos doutes. La réponse, elle est toute simple. Je l'ai cité tout à l'heure, mais je le cite tout à nouveau parce que ça nous permet de savoir en quel temps nous sommes. C'est la fameuse parabole du juge inique dans Luc chapitre 18. Il nous est dit ceci, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Moi, je dis que quand on est malade, c'est pas seulement la prière, c'est pas seulement prier qu'il compte, c'est crier à Dieu. Comme le psaume 107 nous y encourage. Ils crièrent leur détresse à l'Éternel et l'Éternel les délivra de leurs angoisses. Voilà. Parce que prier, ça veut dire quelquefois aussi crier. Et on n'a pas besoin de faire d'efforts quand on souffre. Ça se fait tout seul. Seigneur, délivre-moi. Et la réponse que Jésus, la conclusion que Jésus va donner à cette petite parabole, il dit ceci, mais lorsque je vais revenir, parce que Jésus revient, je voudrais vous le dire, vous le rappelez, est-ce que je trouverai encore de la foi? C'est la caractéristique de notre monde. Alors nous pourrions dire, mais Seigneur, reviens bientôt, parce que le monde s'enlise de plus en plus, et là est en train de véritablement s'enfoncer dans des réactions qui sont complètement négatives et mortelles. Écoutez, dans 1 Timothée, c'est Paul qui nous dit ceci au chapitre 4, il nous dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Alors le quelqu'un, j'y mettrai peut-être un autre mot, beaucoup abandonneront la foi. Des gens qui se réclament du christianisme, qui se disent appartenir à une religion chrétienne. Mais quand il s'agit finalement, eh bien là, de s'approcher de Dieu pour lui demander son intervention, on ne sait plus comment faire. Vous savez pourquoi? Parce que les gens ont été privés de la parole de Dieu, disant et proclamant que la Bible ne servait à rien, que c'était un livre complètement désuet, qui n'avait aucune valeur et aucune capacité à nous aider dans cette vie, mais pourtant c'est une parole qui recèle des paroles de Jésus, proposant précisément notre délivrance et notre salut. Ils abandonneront la foi, il y aura défection, il y aura abandon de la foi. Alors je voudrais quand même repréciser les choses, c'est que nous sommes vraiment dans les derniers temps. Les temps de la fin dont la Bible nous parle, et selon les prophéties bibliques, les temps actuels seront marqués par, à la fois d'un côté, une absence de confiance en Dieu, mais d'un autre côté, pour ceux qui voudront croire, les temps de la fin seront à l'opposé marqués par une puissance et une visitation du Saint-Esprit, à laquelle nous devons croire. Pierre nous fait cette citation, Joël reprend la même chose, le prophète Joël dans l'Ancien Testament. Il nous est dit que dans les derniers jours, dit Dieu, c'est Dieu qui le dit, c'est pas nous, hein, « Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles sur la terre. » Nous pouvons nous attendre, si nous croyons, à ce que Dieu se manifeste dans notre pays de misère, dans nos vies et nos existences, qui sont frappés par la médiocrité dont la seule cause est l'incrédulité. Des miracles en bas sur la terre avant l'arrivée du jour du Seigneur, alors quiconque, et ça c'est l'espérance, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, il sera guéri. C'est une promesse. Rassurons-nous, prenons véritablement pied dans cela, si je peux m'exprimer ainsi, parce que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. L'invoquer avec foi. L'invoquer avec confiance. La parole de Dieu ne serait-elle pas tombée en désuétude? Parce que si en supprimant, ou en condamnant, ou en interdisant la lecture de la Bible, comment les gens pourraient-ils connaître ce que Dieu pense? Et ce que Dieu veut? Et ce que Dieu veut surtout nous donner? Ou le prophète Ésaïe dira ceci, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ?» C'est véritablement le grand doute de notre temps aujourd'hui. Jésus est venu, il a fait, il a dit, il a accompli, il a envoyé, il a mandaté. Les choses se passent exactement de la même manière dans le cœur du croyant. Mais on s'aperçoit que c'est pas la majorité, hein. Et pourtant, je l'ai dit, je le répète, il y a tant de souffrances autour de nous. C'est un véritable océan. C'est un monde terrible que nous avons autour de nous, de pleurs, de cris, toutes sortes de choses. Et qui va se souvenir que Dieu est celui qui est le Dieu de la délivrance? Tant de dessèchement moral et spirituel, plus de miracles. Plus de miracles. Alors je reviens et je conclue sur le récit. Le récit que nous avons pris dans le livre des Actes. C'est précisément dans un temps de réveil que se produit la guérison miraculeuse d'Aîné le paralytique. Les textes le confirment. Et quand on lit simplement le verset 31, il nous est dit ceci. Avant, le verset d'avant, hein. Avant le texte que nous... L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Moi, je lis la guérison divine avec l'action du Saint-Esprit. L'action du Saint-Esprit engendre la guérison divine, comme bien d'autres choses, naturellement. Nous sommes dans ces temps-là. Nous l'avons vu. Il nous est parlé que l'Église était en paix, et la paix favorise la bénédiction de Dieu, parce que les chrétiens de l'époque s'édifiaient et ils marchaient dans ce qu'ils savaient, dans ce qu'ils avaient reconnu comme vrai, ils y croyaient. Et quand les hommes auront compris qu'ils doivent édifier leur vie et la régler selon les principes divins, alors le Saint-Esprit va accroître son action au milieu de nous. Ouais. Dans nos vies personnelles comme dans la collectivité, naturellement, c'est alors que Dieu agit, qu'il se révèle, qu'il se manifeste. Et ce n'est pas l'action de l'homme, c'est l'action authentique de Dieu. Dieu peut se passer de l'homme pour faire des choses. Et c'est une véritable révélation pour celui qui a compris que Dieu était souverain, qu'il était tout-puissant, pleinement capable, même de l'imaginable pour nous. C'est pour ça que les récits de guérison, dans le livre des Actes des Apôtres ou même dans les Évangiles, sont toujours suivis d'une grande joie. D'une grande joie. Il nous est dit que le peuple était dans la joie parce qu'il voyait les choses extraordinaires. Seigneur, ouvre-nous tout à nouveau les écluses des cieux pour que nous voyons combien tu es grand. Descends, Seigneur des cieux, et manifeste-toi dans nos vies. Mais le Seigneur est prêt à le faire. Hein. C'est nous qui avons enlevé l'échelle pour qu'il descende. Enfin, aisselle ou pas aisselle, il descendra quand même. Quoi qu'il en soit. C'est un réveil individuel. C'est un réveil collectif. Aîné va être par l'expérience qu'il va faire lui-même, être le générateur d'un réveil collectif. On l'a lu ensemble. Il nous est dit, Pierre y trouva un homme nommé Aîné couché sur un lit depuis huit ans et paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ guérit. Vous savez, il ne faut pas de grands discours. Hein. Jésus-Christ guérit. Jésus-Christ vient dans notre vie ce soir. Jésus-Christ nous parle. Jésus-Christ pose sa main sur ton problème, ta difficulté, et il te relève. Alors, lève-toi et arrange ton lit. Et le texte nous dit, mais aussitôt il se leva. Vous avez remarqué avec moi, c'est une parole d'autorité qui n'est pas la parole de Pierre lui-même, mais une parole qui est doublée par une action puissante du Saint-Esprit. C'est ça la puissance de l'Évangile. C'est pour ça que nous avons besoin de prier lorsque les prédicateurs ouvrent la bouche et annoncent Jésus, que derrière la parole d'un homme, il y ait vraiment l'action du Saint-Esprit. On appelle ça des paroles de connaissance. On appelle ça des paroles de sagesse. On appelle ça, eh bien, le don du miracle, le don de la guérison, le don de la foi. Et ça, ça se provoque pas, ça ne se commande pas, c'est Dieu qui le fait. Il faut prêcher l'Évangile pour ça. Il faut annoncer cette nouvelle. Jésus-Christ te guérit. Dans la Bible, c'est pas la première fois que nous trouvons ce genre d'expression. Dans l'Ancien Testament, très lointain dans l'histoire, il nous est dit, et Dieu parle à Israël, je suis l'Éternel qui te guérit. Dans le psaume 103, il nous est dit, c'est l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Il n'y en a aucune qui fasse exception, et il n'y en a aucune qui puisse résister à l'action de Dieu. Dans le psaume 107, il envoya sa parole et il les guérit. Ce que nous entendons, c'est que Dieu a envoyé sa parole ce soir. Moi, je demande toujours ce qu'il faut dire avant de prêcher. Je ne veux pas dire, voilà, j'ai un rendez-vous, je dois faire quelque chose. Je demande. Et c'est vrai que j'ai eu à cœur de prêcher et de partager avec vous cette parole, parce qu'elle peut correspondre à quelques besoins de l'auditoire qui est là. Il envoya ses paroles et les guérit. Dans l'évangile de Jean, beaucoup plus près de nous, il nous est dit, Jésus dit au centenier, « Va, ton fils vit ». Dans l'évangile de Luc, il dira à la femme qui était paralysée, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité ». Et il y en a des dizaines comme ça. Besoin d'une parole divine de délivrance, personnelle et directe. Je ferai une remarque au passage, c'est que le premier soin que Pierre prend, c'est de tout attribué au nom de Jésus et à la puissance de Jésus, c'est pas lui. Oui. Et ça, c'est important. Parce que si nous voulons nous attribuer cette puissance et cette action miraculeuse, ce n'est plus quelque chose qui vient de Dieu, ça vient de l'homme, et ça devient profondément malsain, voire même occulte. Parce que l'homme est glorifié à ce moment-là. Et on vole à Dieu ce qui lui revient. Donc, au nom de Jésus, je te l'ordonne, arrange ton lit, lève-toi et arrange ton lit. La conclusion, c'est le verset 35, je termine tout simplement ceci, nous avons devant les yeux cette parole, tous les habitants de Lydde et du Saron, qui sont des régions de la Palestine, au nord de la Palestine, Lydde et du Saron, le virent, ils virent, aîné, guéri. Et vous savez ce qui s'est passé? Ils se convertirent au Seigneur. Ce qui est formidable, c'est que la foi engendre la foi. Elle est communicatrice ou communicative. Et à ce moment-là, eh bien, c'était pas peut-être tous les boiteux comme lui qui étaient guéris à Lydde et dans le Saron, mais c'était toutes les âmes qui avaient besoin du salut. Et ils se sont convertis. Le but direct de ce miracle est d'amener l'homme à Dieu, les pécheurs. Et le miracle, c'est un appel à la repentance. De dire « je suis en face de quelque chose qui me dépasse ». Quelque chose qui va au-delà de ma compréhension. Mais Dieu ne nous demande pas de saisir les choses avec notre intelligence, c'est simplement au niveau de notre cœur. Donc, un appel à la repentance, un réveil de foi qui guérit et qui sauve toute une région. Et on l'a vu ça. On l'a vu dans les moments de réveil. J'ai entendu des histoires extraordinaires. Dans une ville, ou dans une région, voire même un département. À travers une prédication, à travers un homme qui était envoyé par Dieu pour prêcher la grâce divine, et à travers une seule guérison, des dizaines et des dizaines de personnes sont venues à Jésus. C'est comme ça que nous avons, dans les premiers temps, rempli nos églises, sur la base de la guérison divine. parce que le Seigneur est encore capable de le faire. Alors, ne disons pas que tout ça c'est fini, parce que ça peut revenir. Et moi je crois, et il faut y croire, il faut prier pour cela, que Dieu est capable d'envoyer encore des temps nouveaux sur notre monde, sur notre ville, sur notre région, dans notre église. Parce que Dieu n'a pas changé. Mais il faut le croire. Parce que Dieu n'est pas absent, il n'a pas mis la clé sous la porte en disant « Maintenant, débrouillez-vous tout seul ». Le problème, c'est que le Seigneur est capable de faire en fonction de ce que nous croyons ou non. Donc, c'est d'amener les gens à Dieu. L'évangile intégral, celui qui manifeste la puissance surnaturelle de Dieu, conduit toujours à des résultats spirituels. Guérison, salut, donc conversion. C'est ce qui s'est passé. « Je suis tous les jours avec vous, nous dit Jésus, jusqu'à la fin du monde. » Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. Et s'il y a un malade, s'il y a des malades, des souffrants physiquement, moralement, peut-être quelqu'un qui est aux prises avec la dépression, peut-être quelqu'un qui est enfermé dans une prison, d'une façon ou d'une autre, eh bien le Seigneur est capable de faire éclater tous ces verrous, toutes ces portes de fer, pour nous apporter la véritable liberté. Et avec tout cela, eh bien, véritablement la joie et la paix dans notre cœur, et en prime, et je dirais, le cadeau, le nec plus ultra finalement de l'action de Dieu, c'est de sauver nos âmes. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier quelques instants si vous voulez bien. Seigneur, nous voulons te rendre grâce parce que nous croyons en effet que toute ta parole est la vérité. Il n'y a rien à retrancher, et il n'y a rien à y ajouter, puisque en effet, nous savons Seigneur que si tu as bien voulu commencer ce message ce soir, par nous dire en vérité, je vous le dis. Eh bien, ce soir, tu nous dis en vérité, je vous le dis. Je suis moi, moi le seul Dieu. Moi ton Créateur. Moi celui qui répare. Moi celui qui relève. Moi celui qui guérit. Celui qui convertit. Seigneur, dans le nom de Jésus, tu es celui qui sauve. Et nous te bénissons et nous te rendons grâce, Père. Dans ta bonté, dans ta fidélité, nous voulons garder cette parole ce soir et repartir avec la paix et la joie dans notre cœur que ce que tu dis, eh bien tu l'accomplis parce que Dieu tient parole. Puis, par-delà, Seigneur, en effet, notre moment de partage ce soir, nous croyons que nous voulons aussi te prier pour que l'évangile aille très loin, qu'il aille encore beaucoup plus profond, qu'il renverse les murailles d'incrédulité et, en effet, Seigneur, tout l'endurcissement des cœurs, pour te laisser pénétrer à l'intérieur de nous-mêmes, et ainsi tu nous montreras combien tu es grand, combien ta gloire est merveilleuse, et combien ton salut, Seigneur, est un salut, Seigneur, en effet, qui nous conduit à l'éternité, au salut de notre âme. Merci Jésus, merci notre Dieu. Amen, amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.